faire un point sur cette rentrée dans l'enseignement public, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir la directrice académique de la Vendée, Anne-Marie Bazot. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur RCF Vendée et d'accepter de répondre à nos questions. Alors, avant toute chose, faisons le point sur les effectifs de cette année. Je n'ai dit quelques-uns au niveau du rectorat, 727 818 élèves, tout confondu, du primaire au lycée. Dans le public et le privé en Vendée, c'est 121 948 élèves, 66 285 écoliers, 20 582 lycéens et 35 081 collégiens vendéens. Est-ce que ce sont des chiffres que vous confirmez, Madame Bazot ?
Alors pour l'instant, ce sont des prévisions puisque ce sont les effectifs que nous attendons. Nous espérons qu'ils sont là. Pour autant, le constat des effectifs se fera courant du mois de septembre et nous ne serons fixés qu'à la fin de ce mois.
Alors une rentrée scolaire, ça se prépare et puis vous la préparez depuis maintenant un an déjà. Plusieurs fois dans l'année, un comité technique s'est réuni, en février tout d'abord, en juin dernier, et il en est ressorti une carte scolaire avec pas mal d'informations. En février dernier, puis en juin, c'était donc trois ouvertures étaient prévues à Bazoges-en-Paré, Le Fenouillé et Le Gué de Véluire, La Taillée. 25 fermetures, je ne détaillerai pas les 25 fermetures, ça sera un peu trop, mais on pourra le retrouver plus tard sur notre site internet, et zéro gel. Alors, comme on va faire le point dans quelques instants avec vous, Anne-Marie Bazot, directrice académique de la Vendée, on a fait le point cet après-midi avec les syndicats d'enseignants du premier degré. Notre invité a d'ailleurs plusieurs questions à vous poser. On écoute tout de suite Pierre Caminade, enseignant à Saint-Florent-des-Bois. Il est le co-secrétaire du SNUIPP-FSU sur la Vendée.
Le rectorat table sur une baisse de 723 élèves dans les écoles publiques de notre département. Donc alors après, on verra d'ici quelques jours ce qui s'est réalisé. Et à ce titre-là, supprime, nous retire 19 postes par rapport à la rentrée dernière. Alors la prévision de baisse est la même à peu près que celle de la rentrée 2017, sachant que l'an dernier, finalement, on avait été aux alentours de 400 élèves en moins et non pas 700.
Et en revanche, il y avait eu 4 dotations de professeurs l'année dernière, d'instituteurs l'année dernière. Voilà. Là, il y en a 19 en moins, c'est beaucoup et c'est pas habituel en Vendée.
Non, c'est complètement inhabituel. Alors on observe, et là c'est objectif, c'est un constat, une baisse de la natalité dans le département, et puis une arrivée de la population avec des familles qui n'ont pas forcément des enfants en âge scolaire. Donc ça c'est le constat. Ensuite, nous, ce qu'on a dit très tôt, c'est que cette baisse, il s'agit pas de la contester, elle est là. Après, on verra si elle est forte ou pas d'ici quelques jours. Par contre, c'est bien une baisse de la démographie sans malheureusement d'investissement de l'État. C'est-à-dire que si, ne serait-ce qu'on avait eu une dotation de zéro, c'est-à-dire pas de suppression, pas de création de postes, de fait, on aura amélioré beaucoup de situations dans beaucoup d'écoles. Ça aura amélioré les conditions d'apprentissage des élèves, parce que c'est bien le cœur de notre engagement quotidien. Là, on regrette vraiment que l'État fasse le choix de profiter d'une baisse démographique, non pas pour améliorer ses conditions d'apprentissage, mais pour retirer des postes, et finalement qu'il soit fait une situation conjoncturelle sur le plan départemental, des choix structurels de supprimer des postes de fonctionnaires.
Alors l'année dernière, pour la rentrée 2017-2018, vous demandiez aussi à Madame Bazot, directrice académique de la Vendée, d'abaisser les seuils d'ouverture de classe au vu en fait de la baisse du nombre d'élèves et aussi des dotations de l'État en poste d'enseignant. Cette année, qu'est-ce que vous demandez ? Est-ce que c'est exactement la même chose ? Vous êtes sur le même point de vue ?
Alors là, notre directrice académique a fait le choix de supprimer ces fameux seuils d'ouverture et fermeture.
Alors, depuis cette année,
pas les choses. Voilà, enfin c'est la deuxième rentrée où ça va véritablement se mettre en place. Choix qui a été quand même sérieusement contesté par les élus locaux, par les représentants des maires, lors d'une réunion en préfecture là, en mois de février dernier, parce qu'ils ont dit, et c'est ce que disent nos collègues aussi, lorsqu'on veut prévoir à l'année N+1, N+2 des investissements et concernant l'école, c'est un petit peu dur. C'est-à-dire que ces fameux seuils, un petit peu comme les seuils des impôts qu'on trouve toujours trop haut, mais ils permettent au moins de prévoir, ils permettent d'anticiper. Là, la situation de chaque école dépend autant de ses propres effectifs que de la dotation qui nous arrive du ministère, et puis de là où se situent les autres écoles. Donc c'est un petit peu la logique du Robin des Bois, en prenant les écoles dites favorisées pour avec moins d'élèves par classe, pour donner aux écoles qui sont plus en difficulté. Donc c'est dur de prévoir. Alors nous, ce qu'on lui demande vraiment, c'est de l'équité, c'est-à-dire que les écoles qui ont été étudiées en février, puis d'autres en juin et en septembre, que sur une même préparation de rentrée scolaire, il n'y ait pas de situation inéquitable d'écoles avec des effectifs différents qui se retrouvent l'une à ouvrir et pas l'autre, ou l'une à fermer et pas l'autre.
Quels sont les points chauds pour vous en tant que représentant du SNUIPP-FSU pour cette rentrée ?
On a un gros groupe de travail de prévu avec avec la directrice académique là, ce mardi matin. On lui demandera quand même des éléments de réponse, non pas pour nous, syndicats enseignants, mais pour les écoles, pour les familles, concernant, je pense, les Moutiers-les-Mauchais, par exemple, qui enregistrent 18 élèves de plus que ce qui était prévu. École dans laquelle il y a un dispositif ULIS pour inclure, et c'est une bonne chose, des élèves en situation de handicap. Le RPI, c'est ces deux classes uniques regroupées là, à Fémoreau puis le Serre, dans l'est du département, où on a quand même une classe de la petite section CP à 25 et jusqu'au CM2 ensuite à 28. Des classes qui sont isolées chacune dans leur village. Ce sont des effectifs qui pèsent avec 4 à 5 niveaux. On lui demandera des réponses aussi sur l'école maternelle Rivoli, par exemple, à La Roche-sur-Yon, où les effectifs ont augmenté de 10. Donc c'est quasiment 15% d'augmentation des effectifs dans l'été, et pour lesquels il y a quand même 7 enfants qui n'ont pas de personnel pour les accompagner, 7 enfants en situation de handicap qui attendent un accompagnement.
Si vous étiez en face de Anne-Marie Bazot, quelle question souhaiteriez-vous lui poser ?
Une question que je pose, mais alors au nom de toutes les écoles, c'est un petit peu qu'est-ce qui se prépare ? Pourquoi ce changement sur cette rentrée scolaire, puisqu'on avait l'habitude d'avoir, depuis quelques années, depuis l'arrivée de Madame Bazot dans le département, deux phases de carte scolaire, une en février pour préparer la rentrée, et une à la rentrée. Elle nous avait dit que celle de juin n'était pas fiable du tout en termes de prévision. Cette année, on a réussi à rétablir une phase en juin. D'ailleurs, preuve en est, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises. Et là, le comité technique n'est convoqué que le 18 septembre. Donc on souhaite savoir, voilà, quelle va être sa position, pourquoi attendre si tard, est-ce que cela veut dire que même les écoles que j'ai citées, par exemple, ne verront aucune évolution, est-ce que, voilà, pourquoi désorganiser un petit peu la rentrée, quitte à avoir un comité technique, comme d'habitude, et qui ne prend aucune mesure, si rien ne le justifie. Mais voilà, pourquoi prendre ce contre-pied et avoir donné une carte scolaire en juin et reprendre celle de septembre. Voilà, on essaie de comprendre la stratégie qu'on a du mal à décrypter pour le moment.
Voilà, vous venez d'entendre Pierre Caminade, enseignant à Saint-Florent-des-Bois, co-secrétaire du SNUIPP-FSU, syndicat d'enseignants. Nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Marie Bazot, directrice académique de la Vendée, en direct sur RCF Vendée. Alors Anne-Marie Bazot, vous venez d'entendre Pierre Caminade, il se demande pourquoi avoir choisi de modifier cette règle de travail pour l'établissement de la carte scolaire. Pourquoi plus de comité technique au lendemain de la rentrée, mais repoussé au 18 septembre ?
Alors, il est vrai, Monsieur Caminade l'a bien précisé, on a fait une phase de carte scolaire au mois de février, qui est une phase traditionnelle en début d'année civile. Et puis, moi, j'avais souhaité, avec mes équipes, ne plus refaire de phase au mois de juin, parce qu'on s'était aperçu, les années où on l'avait mise en œuvre, qu'entre le mois de juin et le mois de septembre, on avait des écarts à la hausse ou à la baisse qui pouvaient être assez importants. Et donc, on souhaitait vraiment que ce soit plutôt la rentrée scolaire qui soit le moment le plus... le moment de la rentrée pour mettre en place les mesures qui s'imposaient à la rentrée, que ce soit des mesures d'ouverture ou malheureusement parfois de fermeture, comme on a dû le faire de façon assez importante l'année dernière. Et puis il y a une demande unanime de la part des représentants du personnel pour que cette phase soit rétablie. On a eu aussi des élus qui nous sont interpellés sur ce sujet, donc on a entendu. On peut aussi envisager une phase du mois de juin. Cette phase du mois de juin, nous l'avons appréhendée comme la phase du mois de février, c'est-à-dire en reprenant la totalité des situations dans les écoles. Donc on a refait un point d'effectif au mois de juin, ça demandait un travail très conséquent dans les services, très conséquent dans les écoles, très conséquent pour les inspectrices et les inspecteurs de circonscription. Nous avons repris vraiment l'ensemble des situations et reproposé au mois de juin une carte qui était pour nous la plus proche de la rentrée possible, et chacun nous avait dit c'est le moment le plus pertinent pour le faire. Donc de ce fait-là, pour nous, la rentrée prend une autre tournure, si on puis dire, et demain, il n'y aura pas de CTSD, il y aura un CTSD, groupe de travail. Alors, c'est le comité technique spécial départemental qui s'est tenu au mois de février, qui s'est tenu au mois de juin, et qui a permis d'acter à la fois d'ouverture et de fermeture de classe en fonction des prévisions d'effectifs pour le 3 septembre, donc pour aujourd'hui. Demain, on va se trouver dans une situation un petit peu différente, parce que finalement, on peut imaginer que la rentrée est calé, qu'il n'y aura que des ajustements à la marge, et ce sont ces ajustements que nous allons, dont nous allons débattre demain matin en groupe de travail. Ça va nous permettre très rapidement l'après-midi même de pouvoir tenir un comité pour nommer les enseignants qui pourront être en poste, soit dès le mercredi matin pour les écoles qui ont conservé le rythme de 4 jours et demi, soit dès le jeudi matin. Donc on a associé à la fois cette demande de carte scolaire du mois de juin, et puis le besoin d'être très rapidement efficace devant les classes avec les personnels qui doivent être devant les élèves, et donc le comité pour nommer les enseignants demain après-midi.
Et Pierre Caminade, lui, s'inquiète que en repoussant cette date du 18 septembre, finalement rien ne change dans les écoles où lui percevait des problèmes. Est-ce que ça pourrait arriver? Finalement, ça va pas bouger le 18 septembre?
Alors, on va déjà tenir le groupe de travail demain matin. Ce groupe de travail, on le tient avec les représentants du personnel enseignant. Je ne déflorerai pas ce qu'on va faire demain matin. Il faudra un tout petit peu de patience. Mais si on tient ce groupe de travail avant le comité qui va nous permettre de désigner qui sont les enseignants l'après-midi même, c'est peut-être parce qu'il pourrait y avoir quelques incidences.
Mmh. Alors, j'avais donné ces chiffres-là. 3 ouvertures, 25 fermetures, 0 gel. Ça, c'était la carte scolaire qui ressortait du mois de juin.
Tout à fait.
Donc là, pour l'instant, on en est là.
On est là.
Voilà. Et donc, il faut attendre demain et le 18 septembre.
Tout à fait.
Avoir plus d'infos là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a une baisse d'enfants en primaire, comme l'année dernière. Et Pierre Caminade le disait, on a une baisse qui était en fait moindre que prévu. Je crois qu'on est passé de... La prévision, c'était 700 et ensuite on est passé à environ 400. Est-ce qu'il faut s'attendre au même scénario?
C'est très difficile de se prononcer aujourd'hui. C'est vrai qu'on travaille sur des prévisions d'effectifs. Toutes les rentrées, nous les faisons sur des prévisions d'effectifs. Il est assez rare que ces prévisions soient le reflet exact de la réalité. Il y a des années où on prévoit une baisse et cette baisse s'accentue. Il y a des années où on prévoit une hausse si on a une baisse d'élèves. Il y a des années où on prévoit une baisse et cette baisse est moindre par rapport à ce qu'on avait envisagé. Donc pour l'instant, il est très très difficile pour nous de nous prononcer parce que la prévision est encore de fait. On constate maintenant la réalité dans les écoles, mais nous ne pourrons stabiliser ce constat que vers la fin du mois de septembre. Mmh. Donc on n'en saura guère plus.
Vous n'avez pas un avis quand même à ce jour-ci?
Alors on sent quand même... parce que nous remontent les inspectrices et les inspecteurs de circonscription, qu'il y a peu de tensions dans les écoles, qu'il y a donc peut-être peu d'arrivées supplémentaires,
oui.
Et que peut-être le chiffre des moins 723, alors je ne sais pas
serait
si on
correct.
Le réalisera, mais peut-être sera-t-il correct.
Mmh. Suppression de 19 postes d'enseignants par le rectorat, alors qu'on était plutôt habitué depuis pas mal d'années à avoir des postes supplémentaires. Pourquoi ce changement de la part du rectorat?
Alors, c'est pas tellement un changement de la part du rectorat, c'est simplement le constat que pour la quatrième année consécutive, la Vendée perd des élèves dans le premier degré. Et cette perte d'élèves va certainement perdurer quand on voit le taux de natalité qui est encore celui de 2017, où là, on a vraiment un taux de natalité particulièrement faible, avec 6335 naissances de mémoire, ce qui est un taux vraiment très 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 bas par rapport à ce qu'on a connu dans les années précédentes. Donc ce n'est pas la volonté délibérée du rectorat de donner moins de postes, c'est le constat que les élèves sont de moins en moins nombreux. Il y a eu sur les 4 dernières rentrées 3 années avec une dotation positive et puis une année où on a moins 19 postes, qui n'empêche pas les conditions d'encadrement de s'améliorer, je tiens à le souligner.
Anne-Marie Bazot, les années passées, les syndicats vous demandaient toujours des seuils d'ouverture de classe moins hauts, moins drastiques, parce que justement le rectorat nous attribue des postes d'enseignants. Alors cette année, Pierre Caminade nous dit que dans l'interview qu'on a pu entendre, que l'État donc supprime des postes malgré une baisse des effectifs. Il faut reconnaître finalement quand même que c'est au désavantage des enseignants et des élèves qui vont encore se retrouver toujours trop nombreux dans une classe, alors que finalement si on nous avait en tout cas pas supprimé les postes d'enseignants avec une baisse des effectifs, on aurait eu moins d'élèves dans les classes, ça aurait été plus agréable pour tout le monde.
Alors, on pourrait se le dire si c'était la première année que cela se produisait. Or, ce n'est pas le cas. Depuis maintenant plusieurs rentrées, nous avons davantage d'enseignants et nous avons toujours moins d'élèves. Et même si ces moins 19 postes peut sembler un phénomène assez exceptionnel en Vendée, ce qui est le cas, parce que ça fait très longtemps qu'il y a une dotation qui n'est pas positive pour la rentrée, pour autant, les conditions s'améliorent dans les écoles. Parce que nous avons beaucoup, beaucoup moins d'élèves.
Concernant les points chauds que Pierre Caminade avait cités, à Fémoreau ou à l'école Rivoli à La Roche-sur-Yon, est-ce que vous pouvez apporter des réponses à ces inquiétudes ou ça sera à partir de demain?
À partir de demain avec le groupe de travail.
Alors, je voudrais parler un petit peu avec vous des contenus, du contenu finalement des enseignements qu'on donne aux élèves. Là, on a beaucoup parlé du premier degré, mais on a un nouveau ministre de l'Éducation nationale depuis un an, Jean-Michel Blanquer. Et l'année dernière aussi, il a commencé à faire quelques changements. Par exemple, celle de dédoubler les classes de CP dans les zones d'éducation prioritaire plus. Alors l'année dernière, sur cette antenne à la même place, c'était le 4 septembre, vous nous disiez qu'il n'y en avait pas chez nous des zones d'éducation prioritaire plus, mais en revanche, il y avait les 4 zones d'éducation prioritaire, l'Île-Dieu, l'Île-d'Elle, la Châtaigneraie et le collège Tiracois à Fontenay-le-Comte. Et là, normalement, il devrait y avoir dans ces zones-là un dédoublement des classes de CP. Alors
oui, nous avons une attention particulière au CP pour les 4 réseaux d'éducation prioritaire. Cela représente 12 écoles en tout. Par contre, il faut aussi se rappeler que parfois, dans ces écoles, nous perdons des élèves et qu'il n'y a pas forcément 12 élèves qui permettraient d'envisager un dédoublement. Donc nous avons sur les 12 écoles concernées 7 dédoublements et 5 situations pour lesquelles nous avons une attention particulière aux élèves de cours préparatoires, mais pour autant sans pouvoir dédoubler parce qu'on n'atteint pas le chiffre de 12 élèves.
Le ministre Jean-Michel Blanquer veut mettre aussi l'accent sur les fondamentaux en renforçant la maîtrise du français et des mathématiques. Alors qu'est-ce qui attend les écoliers du premier degré sur ce sujet-là ?
Alors il n'y a pas que les écoliers qui vont être concernés. Il y a bien évidemment les écoliers et tous les écoliers avec un objectif de 100% de réussite au CP. Mais il y a aussi l'accent qui va être mis sur le lire, écrire et compter, qui va concerner les écoliers bien évidemment, mais les enseignants au travers leur formation, les enseignants qui vont bénéficier de 18 heures d'animation pédagogique vont avoir 9 heures concernant le français et 9 heures concernant les mathématiques. Et on mettra aussi l'accent pour la formation continue sur ces mêmes sujets.
Toujours des évaluations en CP, en 6e. C'était l'année dernière que ça avait été installé.
Alors CP, CE1 et 6e et seconde.
Ça c'est nouveau alors.
Alors 6e c'était déjà le cas. Seconde ça se poursuit aussi.
Alors, l'Assemblée nationale a aussi voté la proposition de loi qui prévoit une interdiction effective dès la rentrée de septembre 2018 des téléphones portables dans les écoles maternelles, primaires, ainsi que dans les collèges. Anne-Marie Bazot, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de cette mesure ? Est-ce que c'est vraiment un problème dans les établissements scolaires, de la maternelle jusqu'au collège ? Au collège, je veux bien le croire peut-être, mais après en maternelle.
Alors, il s'agit d'une loi interdisant l'utilisation du téléphone portable par les élèves. Cette loi est une loi du 3 août 2018, donc c'est une loi très récente. Alors, effectivement, aujourd'hui, notamment en Vendée, on peut se poser la question des élèves de maternelle élémentaire, mais quand on voit quelle est la valeur juridique de ce texte, qui est quand même une valeur très élevée, puisqu'il s'agit d'une loi, on peut se dire aussi qu'elle est valable d'une part sur tout le territoire national, et peut-être y avoir des situations dans lesquelles les petits reçoivent aussi des téléphones portables, et c'est toujours mieux s'ils restent à la maison, ces téléphones portables, notamment en maternelle, et à l'école élémentaire, et au collège bien évidemment, mais c'est peut-être aussi pour envisager les situations du futur qui ne devrait pas avoir lieu.
Une autre question, Anne-Marie Bazot, c'est une information qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux cet été, mais il s'est avéré que c'était une fake news, une fausse information, et Marielle Schiappa aurait fait instaurer des cours d'éducation sexuelle en maternelle et que l'on apprendrait même la masturbation aux enfants, et donc la ministre a dû démentir ces informations, donc c'était effectivement une fake news, mais tout de même l'éducation à la sexualité est inscrite dans la législation depuis 2001, d'après l'article L312-16 du code de l'éducation, je cite, une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Alors on se rend compte depuis une dernière étude en 2015 que peu d'établissements le font réellement, donc Marlène Schiappa a décidé de relancer cette réforme-là avec une nouvelle circulaire, avec 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité. Moi j'avais une question, c'était qui réalise ces cours d'éducation sexuelle dans les établissements scolaires ?
Alors on est aussi sur deux aspects fondamentaux qui sont d'une part la sécurité affective, qui est vraiment très très importante, et puis on s'inscrit aussi dans l'égalité filles-garçons, qui est aussi quelque chose auquel l'éducation nationale, mais pas seulement, auquel nous tenons beaucoup. Alors, qui va dispenser ces cours ? Eh bien, il y a, en fonction de l'âge des élèves, parce que, bien évidemment, les informations de sécurité affective ne sont pas données du tout de la même façon en fonction de l'âge des élèves. Ça peut être soit l'enseignant de la classe, soit quand on arrive sur des élèves qui sont de classe collège ou lycée, des personnels infirmiers, assistés très souvent de personnel enseignant.
Donc il n'y a pas d'organismes extérieurs qui viennent dans les établissements pour, je peux penser par exemple au planning familial, d'autres structures telles que l'UDAF. Non, c'est vraiment les personnels infirmiers, les enseignants qui font ça.
Alors il peut y avoir des partenariats avec des partenaires qui sont identifiés et reconnus par l'éducation nationale. Sinon, l'éducation nationale peut aussi développer ses propres forces vives pour faire cet enseignement.
Autre actualité sur la rentrée scolaire, c'était aussi dans le tout premier degré, c'était une volonté du ministre Jean-Michel Blanquer, j'ai découvert ça en même temps que je faisais la rentrée pour mon fils, c'est que la rentrée devait se passer en musique, donc il fallait diffuser de la musique, forcément.
Tout à fait. Mais c'est un joli sas, et puis c'est une belle façon de rentrer à l'école. On a vu ce matin, quand on se déplace dans les écoles, des élèves arriver, des parents qui les accompagnent, et ça c'est un joli moment. Et puis une sorte de sas entre le moment où on arrive à l'école accompagné de ses parents, voire de ses grands-parents, et puis le moment où on rentre à l'école. Et ce petit moment de chant, eh bien, est particulièrement gage de sérénité et de gaieté.
Anne-Marie Bazot, merci à vous.
Merci
beaucoup. Je rappelle que vous êtes directrice académique.